Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis toujours content d'être devant vous pour vous apporter un message, d'autant plus que ça m'oblige à puiser moi-même pour trouver, pour étudier, parce qu'on est tous les mêmes, on sait qu'on doit méditer la parole, qu'on doit l'étudier, qu'on doit la lire, mais on a toujours tellement de choses à faire qu'on reporte des fois à demain. Mais quand on a une prédication, au bout d'un moment, le demain, ben c'est demain, donc il faut commencer à se dépêcher. Alors voilà, c'est pour ça que ça m'oblige toujours à puiser un peu plus, et ça me fait toujours très plaisir de pouvoir vous apporter quelque chose. Je vais commencer mon message par une petite histoire de sagesse juive. Alors vous imaginez dans une école rabbinique, où il y a un élève qui pose la question à son rabbin et lui dit « Mais pourquoi est-ce que les gens de condition modeste, pourquoi est-ce que les gens qui sont simples sont plus aptes à nous aider, sont plus aptes à vouloir nous rendre service que les gens riches qui nous regardent de haut quand ils nous regardent ?» Alors le rabbin dit à l'élève « Écoute, regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois ?» Alors devant la fenêtre, il y a la rue qui passe, et puis il voit une maman qui donne la main à son petit gamin, et puis ils vont marcher. Bien. Puis maintenant le rabbin dit à l'élève, tourne la tête, regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Et bien, il lui dit, moi, je me vois. Et le rabbin continue en disant, la fenêtre est faite en verre, le miroir aussi. Mais au fond de ce dernier, il y a une couche d'argent. Et vois-tu, dès qu'on met un peu d'argent derrière le verre, on ne voit plus que soi-même. Et pour cela, je veux vous introduire la lecture que j'ai choisie pour vous, se trouve dans Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à son portail couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Voilà, je pense que vous avez tous reconnu la parabole du riche et de Lazare. Alors cette parabole, comme je viens de vous le dire, se trouve dans le chapitre 16 de Luc, et ce chapitre traite de la richesse et de son utilisation. Le début du chapitre, il y a une autre parabole qui est l'économe infidèle, puis Jésus parle de l'avarice, il est bien sûr contre l'avarice, Et ce chapitre se termine par la parabole que je viens de vous lire. Il est aussi important de se rappeler que les pharisiens sont là et ils écoutent Jésus avec attention depuis un moment, bien avant le chapitre 16, déjà depuis le chapitre 15, et ils commencent à s'énerver un peu parce qu'ils se sentent visés. Et vu qu'ils étaient avares, on voit au verset 14 ce que la Bible dit, les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Quand on veut discréditer quelqu'un parce qu'il dit la vérité, le meilleur moyen, c'est de le ridiculiser. Comme ça, on a toujours des chances d'échapper. Mais là, donc, bien sûr que cette histoire parle aussi de l'au-delà, mais le premier enseignement est déjà sur l'utilisation des richesses et de la fortune. Ce récit a fait couler beaucoup d'encre, parce que d'abord, il y a eu entre les exégètes, certains disaient que c'était une parabole, d'autres pas, peu importe, finalement, je pense que c'en est une. Mais on ne va pas faire une étude du texte pour savoir si c'en est une. Mais il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que c'est la première fois que Jésus, si c'est une parabole, nomme quelqu'un avec un prénom. Autrement, dans toutes les autres paraboles, les personnages, il n'y a pas de prénom. Donc c'est quelque chose là. Et puis il y a aussi deux idées principales, alors qu'une parabole, vous le savez, Jésus, et c'est une histoire imaginaire que Jésus invente avec des faits de la vie courante pour enseigner une vérité spirituelle profonde. Alors que d'autres pensent que cette histoire est une histoire vraie et que Jésus l'a racontée pour nous parler de l'au-delà. Et il y a aussi, bien sûr, tout un débat qu'il y a eu sur la description de l'au-delà. Parce que c'est la première fois que la Bible allait si loin pour le décrire, mais rappelez-vous que d'abord, cet enseignement est fait pour la richesse et l'utilisation de l'argent. Donc, voilà. J'en parlerai de l'au-delà, mais à la fin. Dans cette situation, dans cette histoire, nous sommes, qui est surprenante, elle est quand même surprenante, elle est étrange, quelque part, elle est paranormale, mais en réalité, elle est finalement assez simple. Vous pouvez tout à fait monter ça en théâtre, c'est facile, il y a deux actes. Il y a un acte, la vie sur terre, puis il y a un acte avec la scène, la vie dans l'au-delà. Donc comme ça, c'est facile. Alors on va déjà parler de la vie sur terre. Cette vie sur terre, il y a deux hommes. Il y a l'homme riche et Lazare, que tout sépare. Et d'ailleurs, ils ne se sont jamais rencontrés. Et il y a une grande distance entre eux. Et déjà, le texte nous le montre. Il nous le montre déjà au verset 20, où il y a un portail qui les sépare. Il y a le riche d'un côté et le pauvre de l'autre. Il y a le portail qui est infranchissable. Et puis après, quand on voit au verset 23, il y a le riche qui est dans les tourments et il voit au loin Lazare dans le sein d'Abraham. Et puis finalement, il y a ce grand abîme, il y a ce grand fossé qui les sépare les uns des autres, où ils sont, c'est pas possible d'aller de ci, de là, ou de là, de ci. Voilà, vous avez compris. Alors, maintenant, qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce que le Seigneur nous montre par ce qui les sépare? Alors d'abord, il y a l'abîme. Je relis les deux versets, 19 et 20. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à son portail, couvert d'ulcères. La première différence se situe au niveau des habits. L'homme était élégamment vêtu de pourpre et de lin fin. Alors le pourpre, les habits de pourpre étaient des habits extrêmement cher, parce que cette couleur pourpre provenait d'une substance extraite d'un coquillage. Donc seuls les gens très riches pouvaient se payer un habit pourpre. Et quand j'ai pris mes concordances, parce que j'aime bien aller chercher plus loin, alors j'ai mis pourpre, Alors ça, je fais une petite parenthèse, parce que ça n'a rien à voir avec ça, mais ça a à faire avec la couleur pourpre. J'ai vu les versets juste avant que Jésus soit crucifié. Ils ont mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus pour se moquer de lui en lui disant « un roi des Juifs ». Mais ils ont poussé la moquerie encore plus loin parce qu'ils lui ont mis un vêtement pourpre sur les épaules. Et juste avant de le crucifier, ils ont enlevé le vêtement. Donc il y avait ce pourpre, c'est une couleur qui symbolise la royauté. Et c'est pour ça, parce qu'elle est très chère, et c'est une couleur qui symbolise la royauté, et en se moquant encore de Jésus, après la couronne d'épines, il lui avait encore mis une jaquette, un vêtement rouge sur les épaules pour se moquer d'autant plus. Je ferme la parenthèse, mais je n'avais jamais fait le rapport de cette couleur pourpre. Pourquoi est-ce que l'évangéliste avait marqué ça ? Voilà. C'est tout, c'est juste une découverte. Voilà. Et puis, le lin fin était aussi un tissu qui était extrêmement soyeux, qui était souple, qui était blanc et qui était cher. Donc, on voit que le riche est vraiment riche déjà par les habits qu'il porte. Enfin, ce pauvre Lazare, qu'est-ce qu'on nous dit de ce pauvre Lazare ? Il était couvert d'ulcères, et que les chiens venaient lécher les ulcères. Donc, il ne doit pas être habillé beaucoup, le gars, parce que si les chiens viennent lécher ses ulcères, c'est qu'il n'est pas habillé. Il a juste le nécessaire. Donc, de ce côté-là, lui, il est nu, pratiquement nu. Il n'a rien. Il y a aussi une différence fondamentale entre la nourriture. Lui, il nous a dit que le riche fait bonbons, ce qu'il mange, il fait une joyeuse vie. Et que Lazare a faim et qu'il aimerait même venir manger les miettes sous la table du riche, mais qu'il ne peut pas puisqu'il y a ce fameux portail qui l'empêche de venir. Mais vous remarquerez, ça je le redirai plusieurs fois, il ne dit rien. Mais Lazare est là et se serait bien contenté des restes des repas. Et enfin, il y a le domicile. Alors là, il est parlé d'un portail. Alors, dans ce cas-là, le portail, ce n'est pas l'entrée du jardin, c'est l'entrée de la maison. Parce que ça voulait nous montrer que ce riche était vraiment riche parce que ce portail entrait sur la cour intérieure. Donc, il y avait une cour intérieure et autour, il y avait la maison qui faisait un carré qui entourait la cour. Donc, il avait une très grande demeure. Et Lazare, bien sûr, n'avait rien. Lui, il était couché. Il était couché à l'extérieur, et d'ailleurs, le fait qu'il soit couché, il avait certainement dû être amené, parce qu'il devait être souffrant, parce qu'il était couché et que les chiens léchaient ses ulcères, et à l'époque, les chiens, c'était des bêtes à demi-sauvages, ce n'étaient pas des gentils toutous qui se mettent assis quand on leur dit, mais c'était donc celui qui pouvait éviter les chiens et puis éviter de s'en approcher, le faisait. Mais là, vu qu'il était dans l'état où il était, il n'avait pas d'autre choix que de rester avec ses chiens. Donc en conclusion de tout cela, on peut dire que l'homme était riche, très riche, et que Lazare était pauvre, très pauvre. Certains exégètes pensent aussi que cette description du riche, et c'est pour ça que les pharisiens grinçaient des dents, était justement une description des pharisiens quand ils n'étaient pas au temple. Les pharisiens étaient riches et ils étaient avares. Et c'est certainement une description de leur vie à eux. Voilà, ça se rapproche à eux. Alors que Lazare était une figure de toute cette multitude de pauvres qui étaient dans les faubourgs d'Israël. Et là, nous avons vraiment une image d'une fracture sociale. Et d'ailleurs, les amis, ça continue. J'ai lu la semaine passée à plusieurs sources, ça me semblait tellement extraordinaire, je ne sais pas si vous avez entendu cette nouvelle, que les 26 millionnaires les plus riches du monde possèdent une fortune qui correspond à la moitié de l'humanité la plus pauvre. Donc 26 gus ont la fortune de 3 milliards de gens. C'est quand même impressionnant. Et que leur fortune s'est augmentée l'année passée de 7600 milliards. Donc, je vois que la fracture sociale continue d'être extrêmement criante maintenant. Mais s'il y a des différences humaines entre les riches et les pauvres, entre les intelligents et les moins intelligents, les artistes et pas les artistes, enfin, on est tous différents, il y a quand même une égalité ultime et incontournable, c'est la mort. Nous avons beau vivre des vies très dissemblables, il y a une égalité de traitement malgré tout, qu'on le veuille ou non, de quoi déjà relativiser certaines choses et redécouvrir ce qui est l'essentiel. Mais si la mort est une égalité, très rapidement, la différence se creuse à nouveau après le passage obligé. Et nous arrivons, en tout cas dans ce récit, à une situation contraire à celle d'avant la mort. En effet, les deux personnages de notre histoire meurent. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham et l'homme riche, comme nous dit le texte, est enseveli. Et là se termine, mes amis, le premier acte. Nous allons ouvrir le deuxième. La scène de la vie de l'au-delà. Jésus nous montre alors le renversement du sort de l'homme riche qui se trouve dans les tourments et du pauvre qui est dans le sein d'Abraham. Et là, mes amis, pour nous, bon, c'est une histoire comme ça, on peut le comprendre, mais à l'époque de Jésus, c'est un enseignement absolument révolutionnaire. C'est un enseignement tout à fait particulier, parce que ce que Jésus est en train de dire, c'est que les circonstances de quelqu'un ici-bas et maintenant ne sont pas le reflet de ses relations avec Dieu. Le bien-être et la richesse ne sont nullement la preuve que la personne concernée est juste. Elles ne sont absolument pas automatiquement un signe de la faveur de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, souvent, on associait les deux. Prenons par exemple le psaume 112. « La génération des hommes droits sera bénie. Les biens et la richesse seront dans sa maison. » Donc, c'était absolument révolutionnaire. Et d'autre part, les gens qui étaient pauvres, qui étaient miséreux, eh bien, souvent, on disait, ma foi, ils ont sûrement un péché caché, ils ne se sont pas confessés. Et c'est la colère de Dieu qui est sur eux. D'ailleurs, si vous connaissez le livre de Job, c'est ce qu'essaie de dire et de persuader ses amis pour dire, mais à vous, il y a sûrement quelque chose, si c'est arrivé ça. Eh bien non, Jésus est en train de dire totalement l'inverse. Et en plus, il va plus loin parce que quand nous voyons dans Jean 16, il annonce que l'Église va subir des tribulations, non seulement... Ce n'est pas parce que vous êtes croyant que vous ayez échappé. Vous aurez aussi des tribulations dans le monde. Et Jésus nous l'annonce. Et si vous vous rappelez, il y a 15 jours, quand M. Haussmann est venu nous parler pour les portes ouvertes, et qu'il a parlé de la situation des chrétiens en Inde et dans le monde, ben, il y a quand même 245 millions de chrétiens qui sont en danger. Ce qui représente le cinquième des chrétiens dans le monde qui sont déjà dans les tribulations. Alors nous, on l'attend. Est-ce qu'elles vont arriver? Est-ce qu'on y est déjà? Mais il y en a déjà le cinquième qui y sont. Donc, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on va y échapper. Mais ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est nécessairement béni. Et c'était vraiment un enseignement révolutionnaire pour l'époque. Il n'est plus pour nous, mais pour l'époque. Maintenant, concernant Lazare était un serviteur de Dieu parce qu'il est porté dans le sein d'Abraham et c'était vraiment un lieu céleste, c'était le repos céleste. Et pour être un pauvre et porté par le Père des croyants, comme nous dit Galate, C'est quelque chose d'extraordinaire. Concernant maintenant l'homme riche, son destin est très différent. Il est dit qu'il fut enseveli. Alors, il a certainement été enterré en grande pompe, ça c'est sûr, avec des joueurs de flûte, avec des pleureuses, avec, je pense, des magnifiques homélies pour marquer le pas, qui restent dans les mémoires des gens, mais tout cela ne nous laisse pas deviner dans quel lieu il va aller, et il s'en alla, et son âme se retrouva dans le tourment, dans le séjour des morts. Qu'est-ce qui peut expliquer une fin aussi terrible? Il n'est pas dit qu'il vivait une vie immorale. Il n'est pas dit dans le texte qu'il fut un assassin. Sa richesse en serait-elle la cause? Pas directement. Par contre, son attitude à l'écart des possessions matérielles démontre une absence de relation avec Dieu. Dans le contexte de ce récit, cet homme n'a pas été envoyé au séjour des morts parce qu'il a fait dans sa vie. On pourrait dire qu'il a été envoyé parce qu'il a négligé de faire durant sa vie. Il n'a pas pris soin du mendiant qui était couché devant son portail. Il n'a rien partagé, pas même les miettes. Il est resté égoïstement indifférent aux besoins du pauvre. On dit maintenant le nez dans le guidon. Moi, je dirais plutôt le nez sur son miroir, pour reprendre l'expression de mon histoire du début. Il ne s'est pas soucié des maux et de la détresse de Lazare. Il ne vivait que pour lui, sans Dieu, dans le temps présent, sans penser à demain. Qu'en est-il de Lazare? Pourquoi s'est-il retrouvé dans le sein d'Abraham? Tout comme l'homme riche n'est pas allé dans le séjour des morts parce qu'il était riche, Lazare n'est pas arrivé dans le sein d'Abraham parce qu'il était pauvre. Nous devons relever ici un point important de Lazare. Imaginons-nous des Lazares. Alors nous sommes là en train d'être à moitié nus, derrière un portail, en crevant de faim, en ayant des souffrances et tout, devant des gens qui font bonbons. Qu'est-ce qu'on penserait? Mais c'est pas juste quand même, mais c'est pas possible, il a un cœur d'acier, un cœur de pierre, c'est pas... on commencera à ronchonner. Ou bien on commencera à ronchonner contre Dieu. On dit, mais Dieu, c'est quoi cette justice? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de faux pour mériter ça? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai fait? On commencerait, et je peux vous dire que j'ai entendu dans ma vie bien des plaintes de cet ordre-là pour des situations qui étaient bien moins difficiles que celles de Lazare. Et pourtant, Lazare ne dit rien. Il ne dit rien, pas une seule plainte, nous dit le texte. Il dit rien dans le texte. Et je ne veux pas m'allonger là, mais quand j'ai regardé ça, je suis parti dans Job et j'ai commencé à comparer les deux. Et c'est une sorte de Job, notre Lazare, là. Il ne dit rien. Il est aussi couvert d'ulcères comme Job. C'est la même chose. Et puis, il y a un autre indice. Et c'est peut-être pour ça que Jésus a donné un nom à Lazare. Parce que Lazare est un surnom qui vient d'Éléazar, qui signifie « Dieu est mon secours ». Le Seigneur voulait montrer par là que le nom de Lazare, parce que Lazare cherchait et trouver son secours en Dieu au travers de sa misère, et il exprimait sa foi. Donc le nom Lazare est un indice comme quoi Lazare est tourné vers Dieu. Revenons à l'homme riche. Le réveil, par contre, pour l'homme riche fut brutal. Il se trouva dans les tourments du séjour des morts. Notez d'entrée deux détails piquants. Moi, je trouve. Le premier, c'est qu'il appelle Abraham mon père, alors qu'il n'en avait rien à battre. il reconnaît qu'Abraham est son père. Il y a une filiation. Et Abraham lui répond, mon enfant. C'est intéressant. Pourtant, ils n'avaient rien à voir l'un de l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'on est de la même famille que ça va aider les choses. Ça ne va pas du tout aider les choses. Mais il se reconnaît. Et puis, il dit, pitié, pitié, aide-moi. Là, il ne manque pas d'air, celui-là. Parce qu'il a... Il n'a pas pris soin de Lazare et tout à coup, lui, il veut de la compassion. Mais il y a autre chose aussi qui est intéressante à noter, c'est que le riche ne dit pas que sa situation est injuste. Il ne dit pas, c'est pas juste, je suis là, non, il ne dit rien. Il se rend compte, là, il est là. Et autre chose aussi qui est étonnante, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant tout le texte, Lazare ne dit rien. Il ne dit rien. Voilà. Et maintenant, nous avons trois prières de l'homme riche. Et ça, c'est aussi intéressant de voir la progression des prières. Il dit, maintenant, écoute, Abraham, envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau pour qu'il vienne me rafraîchir la langue. Il ne manque pas d'air. D'abord, et c'est intéressant parce qu'il connaît Lazare, il connaît son nom, il l'a reconnu déjà. Et pour lui, Lazare est toujours quelqu'un qui doit le servir. Envoie Lazare. Hein? Et puis, moi je suis mal, alors maintenant il faut que Lazare vienne m'aider. Alors que pendant des années, enfin pendant un certain temps, lui n'a pas du tout daigné regarder Lazare. C'est intéressant. Donc là, on voit que le riche est encore vraiment, il se regarde dans le miroir. Il veut toute l'attention pour lui. Et la réponse d'Abraham, c'est impossible d'envoyer Lazare, car un abîme infranchissable nous sépare. Alors si cet abîme est infranchissable, si les dés en sont jetés, si les jeux sont faits, c'est que tout a été préparé en amont pour le riche pour en arriver là. Donc le riche comprend alors que c'est sans espoir pour lui et qu'il est condamné à rester où il est. Alors je pense que ça doit travailler. Il n'est pas dit dans le texte si les prières ont été successives, ou bien s'il y a eu quand même un temps de réflexion entre chaque prière. Parce que la deuxième prière, Abraham envoie Lazare, encore lui, envoie Lazare avertir mes frères pour qu'ils fassent attention, pour qu'ils ne se retrouvent pas eux non plus dans cette situation. Voilà qu'il commence à se préoccuper de ses frères. Il a tourné légèrement la tête du miroir pour se dire, tiens, je ne suis pas tout seul sur terre. Il y a mes frères, c'est déjà pas mal. Mais Abraham lui dit, non, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes, dans Moïse et les prophètes, ils ont toute la panoplie des lois sociales, humaines et religieuses pour établir de bons rapports avec les hommes et de bons rapports avec Dieu et de savoir ce qu'il en coûte si on ne les met pas en pratique. Donc ils ont tout sous la main. Donc, ça leur suffit. J'imagine, l'homme riche continue, il continue. Troisième prière. Envoie Lazare, comme ça, vers mes frères, comme ça, quand ils verront un ressuscité, ils se convertiront. Ils se repentiront et se convertiront. Incroyable! Voilà qui parle de repentir et de conversion à la troisième prière. Vous voyez, le gars, comme il a évolué, s'il l'avait fait avant, ben, ça aurait été bon. Il l'a fait, c'est malheureusement trop tard pour lui, mais ça continue. Et Abraham lui dit, non, même si on envoie un ressuscité, ils ne croiront pas, c'est inutile. Abraham ne partage pas son optimisme. Et l'histoire lui donnera raison. Le problème ne vient pas, mes amis, d'un manque d'information, mais le problème, c'est la rébellion du cœur et l'incrédulité. Les preuves les plus évidentes ne percerneront pas l'esprit aussi longtemps que le cœur n'est pas disposé à s'humilier et savoir qu'on a besoin de repentir et du salut de Dieu. Pour preuve, Jésus avait déjà ressuscité un mort, c'était le fils de la veuve de Jaïn. Ensuite, il a ressuscité Lazare. Marrant, c'est le même nom. Et lorsque Jésus se relèvera de la mort, que la rumeur se répandra que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, ceux qui l'ont persécuté changeront-ils d'avis? Pas du tout. Pire, ils commenceront à persécuter l'Église naissante. Donc même devant les preuves et tous ceux qui connaissent les Écritures, si on a la dureté du cœur et l'incrédulité du cœur, on ne peut rien faire. On ne peut pas les toucher. Ces gens ne sont pas touchés. Et voyez-vous, quand, je pense que ça vous est tous arrivé, quand vous essayez de parler à quelqu'un qui ne croit pas ou qui cherche, puis on lui parle de la Bible, il dit « Ah, oh, mais la Bible, magnifique livre, livre d'histoire, écrit par les hommes, il est plein de contradictions, mais c'est quand même intéressant, ça fait partie de notre culture. » C'est pas ça la foi. Si on ne veut pas, on ne veut pas. Alors voilà, maintenant j'aimerais parler de l'épilogue. Cette parabole de Luc 16 est une parabole complexe, car il y a plusieurs enseignements spirituels qui gravitent autour. Et il y en a deux. Il y a eu déjà cette révélation, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Jésus pour les pharisiens en leur disant que ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est nécessairement bon. Et puis, la deuxième idée principale de cette parabole, c'est « Là où est ton cœur, là est ton Dieu. » Et c'est le titre de mon message. Je ne vous l'ai pas dit tout de suite parce que vous auriez tout de suite compris. « Là où est ton cœur, là est ton Dieu. » Et pour illustrer cette vérité spirituelle, Jésus raconte cette parabole et souligne d'abord trois enseignements. La gestion des richesses selon la parole de Dieu. N'oublions pas de le remettre dans le contexte. On parle de richesse et là les pharisiens grippent sous devant lui. On parle ici de gens qui ont donc des responsabilités spirituelles importantes. Et c'est leur choix d'être plus amis de l'argent que du Fils de Dieu qu'ils tournent en dérision. On est responsable, mes amis. Il y a donc maintenant un avertissement destiné à ceux qui seraient tentés d'amasser des richesses, des fortunes sur terre, pour satisfaire uniquement leurs désirs. Il s'agit de mettre sa vie en conformité à la parole. Et voyez-vous, sur l'éthique de l'argent et sur l'amour du prochain, l'enseignement de Jésus est le même que la Torah qui était là depuis la nuit des temps. Il s'agit d'œuvrer maintenant et de ne pas attendre, de travailler maintenant, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Il n'est pas reproché à l'homme riche d'être riche. Tout au long de l'enseignement de Jésus, la richesse est à comprendre comme un prêt dont il faut rendre compte. Il s'agit de gérer, non de posséder. Il s'agit de partager et non de thésauriser. Ce que nous possédons n'est pas considéré comme un bien, mais je dirais comme un test, comme un laboratoire, comme un terrain d'exercice à travers lequel se vérifie notre amour pour le prochain. Car Dieu connaît parfaitement notre cœur, ne dit-il pas aux pharisiens au verset 15, « Vous vous faites passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » Alors si Dieu connaît leur cœur, il connaît le nôtre aussi, et il sait où vont notre amitié. Il appartient à chacun de nous de s'examiner pour savoir, de se positionner pour savoir où vont nos amitiés, et de se positionner face à la parole. car nous avons encore moins d'excuses que l'homme riche de l'époque qui avait, je mettrai un guillemet, que Moïse et les prophètes. Nous avons, nous, maintenant, l'évangile du ressuscité en plus pour poursuivre. Deuxième enseignement, un enseignement qui est sur la parole. Attendez un petit instant parce que je change d'avis dans l'ordre. Voilà. L'importance de se laisser persuader par la parole. Vous connaissez tous ce fameux verset qu'on répète assez souvent. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui ferment leur cœur et leurs oreilles à la voix de Dieu dans les Écritures le font au péril de leur âme pour l'éternité. Et il y a toujours un verset qui m'a bouleversé et qui m'est toujours resté quand je lisais déjà l'Ancien Testament, quand Dieu dit « Oui, mon peuple périt faute de connaissance ». C'est terrible ça. « Oui, mon peuple meurt d'ignorance ». Et nous avons tout sous la main. Et voyez-vous, il y a quelque temps, j'ai accompagné une grand-maman qui est décédée maintenant. Elle était bien malade et je lui ai demandé s'il avait la foi. Elle m'a dit « Blaise, dans ma famille, on n'a jamais parlé de Dieu. Dans la famille de mon mari, on n'a jamais parlé de Dieu. Et dans ma famille, à moi, on n'a jamais parlé de Dieu. » C'est clair. Dieu était complètement étranger à la vie de ces gens. Donc, voilà, mon peuple meurt d'ignorance. Pourtant, tout est là pour pouvoir apprendre. C'est un choix. C'est un choix, là où ton cœur est ton Dieu. Voilà. Et ça, ça m'a impressionné. Je n'ai pas pu aller beaucoup plus loin parce qu'elle était hermétique, mais voilà. Voilà, elle me l'a dit, mais c'était une dame tout à fait gentille, pas de problème. Hein, simplement, elle avait fait un choix. Elles avaient simplement éliminé Dieu de leur vie. Un troisième enseignement, Dieu nous laisse libres et nous responsabilise de nos décisions. Les preuves les plus convaincantes du christianisme ne peuvent pas persuader un cœur incrédule. Et ça, pour moi, c'est un mystère. De deux personnes qui écoutent la parole, un croit, l'autre pas. C'est impressionnant. Pourtant, c'est les mêmes paroles. On retrouve ça aussi dans les familles. Des familles, il y a cinq frères et sœurs, il y en a quatre qui sont croyants, le cinquième pas. Qu'est-ce qui fait ? Ça, je ne sais pas, alors. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que des fois, ça croche, mais qu'ils ne sentent pas la notion de devoir se repentir de mon Dieu, je ne sais pas. Mais on a beau faire la danse du ventre, ils ne vont quand même pas changer d'avis, il n'y a rien à faire. Donc, c'est comme ça. Mais il faut toujours espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, au dernier moment, peut-être qu'ils se tourneront. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'important et d'intéressant. J'aimerais parler maintenant aussi un enseignement sur l'au-delà dans ce passage. Alors, regardons le Seigneur comme il parle de ce sujet. Il utilise partout des symboles, des expressions imagées qui sont tirées du monde que nous connaissons. Le rafraîchissement de la langue avec de l'eau, par exemple, du tourment dans les flammes, de l'abîme que personne ne peut franchir. Il décrit l'insaisissable avec un vocabulaire que l'on peut saisir. En effet, c'est la seule façon de nous aider à visualiser ce qui est un monde que nous ne pouvons pas connaître, nous ne connaissons pas ce monde. C'est une grâce que le Seigneur nous ait parlé ainsi, car je pense que si nous l'avait vraiment parlé comme c'est, on n'aurait strictement rien compris. Et d'ailleurs, j'ai regardé dans 2 Corinthiens, là, Paul, quand il est monté au troisième ciel, il voit des choses et il entend des paroles qu'il ne peut pas dire. C'est au-delà. C'est au-delà de ce que l'on peut comprendre. Mais n'oubliez pas que Dieu, pour nous parler à travers les paraboles et autres, on utilise toujours des symboles pour qu'on soit capable de comprendre. Ça ne sert à rien de nous expliquer la relativité d'Einstein si on n'y comprend rien en mathématiques, et on pourra passer la journée en comprenant quand même rien du tout. Donc, c'est ça qui est important, c'est que le Seigneur utilise des images pour nous faire comprendre des principes. Mais dans ce passage-là, on comprend une chose, c'est qu'il y a un grand fossé entre un lieu et un autre lieu. Il y a l'homme riche, il est dans un lieu, et puis Abraham, et Lazare dans le sein d'Abraham, il est dans un autre lieu. Et une fois qu'on est de l'autre côté, c'est trop tard. Alors, je sais qu'il y a bien des théories, et même des croyances, qui pensent qu'il y a encore une chance de l'autre côté. Dieu est bon, Dieu est amour, donc de toute façon, quoi qu'on fasse, de l'autre côté, on a encore un joker. Eh bien, mes amis, je ne pense pas. Personnellement, je ne le pense pas du tout. Parce que, allons plus loin. Jésus, il y a 2000 ans, il est venu sur la terre pour porter nos fautes. Et il est mort pour ça, et il est ressuscité. Il est venu en homme, en chair, pour nous sauver. Et c'est maintenant que l'on prend la décision. Autrement, si on avait un joker de l'autre côté, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Ah, je me suis trompé. Ah, ben je fais ça, puis je suis sauvé. Ah non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la vie, ce qui nous montre là, c'est que la décision pour notre vie éternelle, elle se décide ici. Une fois qu'on est de l'autre côté, c'est trop tard. Alors, je ne veux pas vous faire peur. Et Jésus certainement nous a dit ça, c'est pas du tout pour nous faire peur, mais c'est pour vous dire, hé les gars, attention, c'est important. Manquez pas la cible, parce que c'est maintenant que ça se décide. Et je pense que c'est un des enseignements de ce passage sur l'importance que nous avons maintenant de suivre Dieu, parce que nous savons ni le jour ni l'heure. Ne reportons pas à demain ce que nous avons compris aujourd'hui. Il y a pas mal dans ce texte. Et puis j'ai raccourci parce que ça n'aurait eu pour plus longtemps, mais je trouvais déjà intéressant ça. Voici les amis, cette parabole de l'homme riche et de Lazare est un magnifique texte, très riche. Et il nous montre combien notre vie ici-bas, avec ses choix, sont primordiaux parce qu'ils déterminent notre vie éternelle. Si nous vivons par le cœur une relation personnelle avec Jésus-Christ et que nous obéissons à sa volonté pour avoir ses bénédictions, pour augmenter notre foi, eh bien, si nous vivons avec Dieu de ce côté, nous retrouverons Dieu de l'autre. Mais si nous vivons séparés de Dieu de ce côté, nous serons séparés de Dieu de l'autre côté. Et l'éternité, c'est long, paraît-il. C'est même très long. Et cette parole, surtout le début, comme on dit. Et cette parole nous invite à une introspection personnelle. Elle devrait nous motiver. Alors ça, je parle pour moi. Je parle aussi pour vous, mais en tout cas pour moi. Elle devrait nous motiver. Elle devrait me motiver. Par amour pour notre prochain, à annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Ça devrait être un moteur pour annoncer l'évangile, parce que c'est pour l'éternité que ça se parle. Car la vie éternelle, c'est long. Alors pour donner une suite à ma petite histoire du début de la sagesse juive, je vous invite maintenant à regarder dehors, et mieux, je vous invite à sortir et aller à la rencontre des gens, étendre les cordages de notre tente, à ouvrir les horizons et à choisir la vie avec un V majuscule, la vraie vie, et aller la partager avec ceux qui ne la connaissent pas.